Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 1, chapitre 3. État de la chrétienté, théologie, dialectique, trinité, prédestination, état primitif, rédemption, grâce, pénitence. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'état de la chrétienté. La théologie et la religion étaient alors bien distinctes. La doctrine des docteurs et la pratique des prêtres, des moines et du peuple offraient deux sphères très différentes. Elles influaient pourtant l'une sur l'autre, et la Réformation eut affaire avec l'une et avec l'autre. Parcourons-les toutes deux et prenons d'abord un aperçu de l'école ou de la théologie. La théologie se trouvait encore sous l'influence du Moyen Âge. Le Moyen Âge s'était réveillé et avait produit de grands docteurs. Mais leur science ne s'était tournée ni vers l'interprétation des Saintes Écritures, ni vers l'examen des faits de l'Église. L'exégèse et l'histoire, ces deux grandes sources de la science théologique, continuèrent à dormir. Une nouvelle science prit leur place. Ce fut la dialectique, l'art de raisonner, devint la mine féconde de la nouvelle théologie. Le Moyen Âge fit la découverte d'Aristote. On apprit à le connaître, soit par de vieilles traductions latines, soit par des traductions arabes. Aristote ressuscité apparut dans l'Occident comme un géant, et soumit les esprits et presque les consciences. Sa méthode philosophique vint fortifier le penchant que cette époque avait pour la dialectique. Cette méthode était très propre, en effet, à de subtiles recherches et à d'argucieuses distinctions. L'obscurité des traductions du philosophe grec favorisait aussi la subtilité dialectique qui s'était emparée des Occidentaux. L'Église, alarmée, combattit quelque temps cette tendance nouvelle. Elle craignait que cette humeur raisonneuse n'enfantât des hérésies. Mais la dialectique se montra de bonne composition. Des moines l'employèrent contre les hérétiques et dès lors son triomphe fut assuré. Le caractère de cette méthode fut d'inventer une multitude de questions sur toutes les matières théologiques et de les décider ensuite par une résolution. Souvent, ces questions roulaient sur les sujets les plus inutiles. On demandait par exemple si toutes les bêtes avaient été dans l'arche de Noé et si un homme mort peut dire la messe. Mais ne jugeons pas les scolastiques seulement par de tels traits. Souvent, au contraire, nous devons reconnaître la profondeur et l'étendue de leur esprit. Plusieurs d'entre eux distinguaient les vérités théologiques et les vérités philosophiques, affirmant que quelque chose pouvait être vrai théologiquement et faux philosophiquement. On pensait de cette manière concilier l'incrédulité avec une froide et morte adhésion aux formes de l'Église. Mais d'autres docteurs, et Thomas d'Aquin à leur tête, maintenaient que la doctrine révélée n'était nullement en contradiction avec une raison éclairée et que de même que la charité dans le christianisme n'anéantit pas les affections naturelles de l'homme, mais les redresse, les sanctifie, les ennoblit et les domine, de même aussi la foi n'anéantit pas la philosophie, mais peut l'employer en la sanctifiant et l'éclairant de sa lumière. La doctrine de la Trinité exerça fort la dialectique de ces théologiens. À force de distinctions et de raisonnements, on les vit tomber dans des erreurs opposées. Les uns distinguèrent les trois personnes de manière à en faire trois dieux, c'est ce que firent Rosselin de Compiègne et ses adhérents. Les autres les confondirent de manière à n'en faire qu'une simple distinction d'idées, c'est ce que firent Gilbert de Poitiers et les siens. Mais la doctrine orthodoxe fut maintenue avec force par d'autres docteurs. La subtilité dialectique de ces temps ne semble de difficultés et cherchait à les faire disparaître par des distinctions dialectiques. « On ne peut dire que Dieu veuille le mal », disait Pierre Lombard, « mais on peut dire non plus qu'il ne le veuille pas ». La plupart de ces théologiens cherchèrent à affaiblir par leurs travaux dialectiques la doctrine de la prédestination qu'ils trouvèrent dans l'Église. Alexandre de Halle se servit pour cela de cette distinction d'Aristote que chaque action suppose deux facteurs, savoir une cause agissante et une matière qui doit recevoir l'action de cette cause. La prédestination divine, dit-il, agit sans doute pour le salut de l'homme, mais il doit aussi se trouver une réceptibilité pour cette grâce dans l'âme de l'homme. Sans ce second facteur, le premier ne peut rien, et la prédestination consiste en ce que Dieu, connaissant par sa préscience ceux dans lesquels ce second facteur se trouvera, a arrêté de leur communiquer sa grâce. Quant à l'état primitif de l'homme, ces théologiens distinguaient les dons naturels et les dons gratuits. Les premiers consistaient dans la pureté des forces primitives de l'âme humaine. Les seconds étaient les dons de la grâce que Dieu accordait à cette âme pour qu'elle pût accomplir le bien. Mais ici, ces docteurs se séparaient de nouveau. Les uns prétendaient que l'homme n'avait eu primitivement que les dons naturels et avait dû, par l'usage qu'il en ferait, mériter ceux de la grâce. Mais Thomas d'Aquin, que l'on trouve en général du côté de la saine doctrine, prétendait que les dons de la grâce avaient été intimement unis dès le commencement avec les dons de la nature, puisque le premier homme se trouvait dans une parfaite santé morale. La chute, disaient les premiers, qui inclinaient vers le libre arbitre, a enlevé à l'homme les dons de la grâce, mais elle ne lui a point entièrement ôté les forces primitives de la nature, car toute sanctification eût été impossible s'il ne se fût plus trouvé en l'homme aucune force morale. Tandis que les théologiens les plus stricts pensaient que la chute avait non seulement ôté la grâce, mais aussi corrompu la nature. Tous reconnaissaient l'œuvre de réconciliation que Christ a accomplie par ses souffrances et par sa mort. Mais les uns prétendaient que la rédemption ne pouvait virtuellement être opérée que par la satisfaction expiatoire de la mort de Jésus-Christ, tandis que d'autres cherchaient à prouver que Dieu avait simplement attaché à ce prix la rédemption et la grâce. D'autres encore, et parmi eux Abélard, faisaient consister les suites salutaires de la rédemption en ce qu'elle faisait naître dans le cœur de l'homme la confiance et l'amour de Dieu. La doctrine de la sanctification ou de la grâce nous manifeste de nouveau dans toute sa richesse la subtilité dialectique de ces théologiens. Tous, admettant la distinction d'Aristote dont nous avons parlé, établissent la nécessité de l'existence dans l'homme d'une matière disposée à recevoir la grâce, materia disposita. Mais Thomas d'Aquin en attribue la disposition à la grâce même. La grâce, disent-ils, était formatrice pour l'homme avant sa chute. Maintenant qu'il y a en lui quelque chose à détruire, elle est grâce réformatrice. Il distingue encore la grâce donnée gratuitement, gratia gratis data, et la grâce qui rend agréable, gratia gratum faciens, et bien d'autres encore. La doctrine de la pénitence et des indulgences que nous avons déjà exposées venait couronner tout ce système et gâter ce qu'il pouvait avoir de bon. Pierre Lombard avait le premier distingué trois genres de pénitence. La pénitence du cœur ou la componction, la pénitence de la bouche ou la confession et la pénitence des œuvres ou la satisfaction extérieure. Il distingua, il est vrai, une absolution devant Dieu et une absolution devant l'Église. Il dit même que la repentance intérieure suffisait pour procurer le pardon des péchés. Mais il sut rentrer de notre côté dans l'erreur de l'Église. Il admit que pour les péchés commis après le baptême, il fallait ou endurer le feu du purgatoire, ou se soumettre à la pénitence ecclésiastique en en acceptant celui qui aurait une repentance intérieure si parfaite qu'elle pourrait remplacer toutes les autres douleurs. Puis il se pose des questions que, malgré toute sa dialectique, il se trouve embarrassé de résoudre. Si deux hommes égaux dans leur état spirituel, mais l'un pauvre et l'autre riche, meurent à la fois, que l'un n'ait d'autre secours que les prières ordinaires de l'Église, et que pour l'autre, au contraire, on puisse célébrer beaucoup de messes et faire beaucoup d'œuvres. Qu'arrivera-t-il ? Le scolastique se tourne et retourne de tous côtés. À la fin, il dit « Ils auront le même sort, mais non par les mêmes causes. Le riche ne sera pas délivré plus parfaitement du purgatoire, mais il le sera plus promptement. » Voilà quelques traits de la théologie qui régnait dans les écoles à l'époque de la Réformation. Des distinctions, des idées quelquefois justes, souvent fausses, mais rien que des idées. La doctrine chrétienne avait perdu ce parfum du ciel, cette force et cette vie pratique qui viennent de Dieu et qui la caractérisèrent au temps des apôtres. Elle devait redescendre d'en haut. Livre 1, chapitre 4, religion, reliques, rites de Pâques, mœurs, corruption, désordre des prêtres, des évêques, des papes, Borgia, instruction, ignorance, cicéronien. Cependant, la science des écoles était pure si on la compare à l'état réel de l'Église. La théologie des savants était florissante si on la compare à la religion, aux mœurs, à l'instruction des prêtres, des moines et du peuple. Si la science avait besoin d'un renouvellement, l'Église avait encore plus besoin d'une réforme. Le peuple de la chrétienté, et dans ce peuple, il faut à peu près tout comprendre, n'attendait plus d'un Dieu vivant et saint le don gratuit de la vie éternelle. Il devait donc, pour l'obtenir, recourir à tous les moyens que pouvait inventer une imagination superstitieuse, craintive et alarmée. Le ciel se remplit de saints et de médiateurs qui devaient solliciter cette grâce. La terre se remplit d'œuvres pies, de sacrifices, de pratiques et de cérémonies qui devaient la mériter. Voici le tableau que nous fait de la religion à cette époque un homme qui fut longtemps moine et plus tard compagnon d'œuvre de Luther, Myconius. Les souffrances et les mérites de Christ étaient traités comme une vaine histoire ou comme les fables d'Homère. Il n'était pas question de la foi par laquelle on s'assure la justice du Sauveur et l'héritage de la vie éternelle. Christ était un juge sévère, prêt à condamner tous ceux qui ne recouraient pas à l'intercession des saints ou aux indulgences des papes. À sa place figurait comme intercesseur d'abord la Vierge Marie, semblable à la Diane du paganisme, et puis des saints dont les papes augmentaient sans cesse le catalogue. Ces médiateurs n'accordaient leurs prières que si l'on avait bien mérité des ordres fondés par eux. Et pour cela, il fallait faire non pas ce que Dieu commande dans sa parole, mais un grand nombre d'œuvres inventées par les moines et par les prêtres et qui rapportaient beaucoup d'argent. C'était des Ave Maria, des prières de Sainte Ursule, de Sainte Brigitte. Il fallait chanter, crier, jour et nuit. Il y avait autant de lieux de pèlerinage que de montagnes, de forêts ou de vallées. Mais l'on pouvait, avec de l'argent, racheter ses peines. On apportait donc au couvent et aux prêtres de l'argent et tout ce qui pouvait avoir quelque valeur. Des poulets, des oies, des canards, des œufs, de la cire, du chaume, du beurre, du fromage. Alors les chants retentissaient, les cloches sonnaient, les parfums remplissaient le sanctuaire, les sacrifices étaient offerts, les cuisines regorgeaient, les verres se heurtaient et les messes terminaient et recouvraient toutes ces œuvres pies. Les évêques ne prêchaient pas, mais ils consacraient les prêtres. Les cloches, les moines, les églises, les chapelles, les images, les livres, les cimetières, et tout cela fournissait de grands revenus. Des os, des bras, des pieds étaient conservés dans des boîtes d'argent ou d'or. On les donnait à embrasser pendant la messe, et cela aussi rapportait un grand profit. Tous ces gens maintenaient que le pape, étant à la place de Dieu, ne pouvait se tromper. Et il ne souffrait aucune contradiction. À l'église de tous les saints, à Wittenberg, on faisait voir un morceau de l'arche de Noé, un peu de suie provenant de la fournaise des trois jeunes hommes, un morceau de bois de la crèche de Jésus-Christ, des cheveux de la barbe du grand Christophe et 19 000 autres reliques de plus ou moins grand prix. À Schaffhouse, on montrait la laine de Saint-Joseph que Nicodème avait reçue dans son gant. Dans le Württemberg, on rencontrait un vendeur d'indulgences, débitant sa marchandise, la tête ornée d'une grande plume tirée de l'aile de l'archange Michel. Mais il n'était pas nécessaire d'aller chercher au loin ces précieux trésors. Des fermiers de reliques parcouraient le pays. Ils les colportaient dans les campagnes, comme on l'a fait plus tard des Saintes Écritures, et les apportaient aux fidèles dans leur maison pour leur épargner les frais et la peine du pèlerinage. On les exposait avec pompe dans les églises. Ces colporteurs errants payaient une certaine somme aux propriétaires des reliques et leur donnaient 10% de leurs profits. Le royaume des cieux avait disparu et les hommes avaient élevé à sa place sur la terre un honteux marché. Aussi un esprit profane avait-il envahi la religion. Et les souvenirs les plus sacrés de l'Église, les temps qui appelaient le plus les fidèles au recueillement et à l'amour, étaient déshonorés par des bouffonneries et des profanations toutes païennes. Les rires de Pâques tenaient une grande place dans les actes de l'Église. La fête de la résurrection de Jésus-Christ devant être célébrée avec joie, on recherchait dans les sermons tout ce qui pouvait exciter les rires du peuple. Tel prédicateur chantait comme un coucou, tel autre sifflait comme une oie. L'un traînait à l'autel un laïc revêtu d'un froc, un second récitait les histoires les plus indécentes, un troisième racontait les tours de l'apôtre Saint-Pierre, entre autres comment au cabaret il avait trompé son hôte en ne payant pas son écho. Le bas clergé profitait de l'occasion pour tourner en ridicule ses supérieurs. Les temples étaient changés en tréteaux et les prêtres en bateleurs. Si telle était la religion, que devaient être les mœurs? Sans doute la corruption n'était pas alors universelle, il ne faut point l'oublier, l'équité le demande. On vit jaillir de la réformation même une abondance de piété, de justice et de force. L'action spontanée de la puissance de Dieu en fut la cause. Mais comment nier qu'il avait à l'avance déposé les germes de cette vie nouvelle dans le sein de l'Église? Si de nos jours on rassemblait toutes les immoralités et toutes les turpitudes qui se commettent dans un seul pays, cette masse de corruption nous effraierait sans doute encore. Néanmoins, le mal eut à cette époque des caractères, une généralité qu'il n'a pas eu depuis lors. Et surtout, l'abomination désolait les lieux saints comme il ne lui a plus été donné de le faire depuis les jours de la Réformation. La vie avait déchu avec la foi. La nouvelle du don de la vie éternelle est la puissance de Dieu pour régénérer les hommes. Ôtez le salut que Dieu donne, vous ôtez la sanctification et les œuvres. Ce fut ce qui arriva. La doctrine et le débit des indulgences provoquaient puissamment au mal un peuple ignorant. Il est vrai que, selon l'Église, les indulgences ne pouvaient être utiles qu'à ceux qui promettaient de se corriger et qui tenaient leur parole. Mais qu'attendre d'une doctrine inventée en vue du profit qu'on espérait en retirer? Les vendeurs d'indulgences étaient naturellement tentés, afin de mieux débiter leurs marchandises, de présenter la chose au peuple de la manière la plus propre à l'attirer et à le séduire. Les savants eux-mêmes ne comprenaient pas trop cette doctrine. Tout ce que la multitude y voyait, c'est que les indulgences permettaient de pécher et les marchands ne s'empressaient pas de dissiper une erreur si favorable à la vente. Que de désordres et de crimes dans ces siècles ténébreux où l'impunité s'acquérait à prix d'argent! Que pouvait-on craindre quand une petite contribution pour bâtir une église délivrait des vengeances du monde à venir? Quel espoir de renouvellement quand il n'y avait plus communication entre Dieu et l'homme et que l'homme, éloigné du Dieu qui est esprit et vie, ne se mouvait plus qu'au milieu de petites cérémonies, de grossières pratiques dans une atmosphère de mort. Les prêtres étaient les premiers soumis à cette influence corruptrice. En voulant s'élever, ils s'étaient abaissés. Ils avaient voulu ravir à Dieu un rayon de sa gloire et le placer dans leur sein, mais leur tentative avait été vaine et il n'y avait caché qu'un levain de corruption dérobé à la puissance du mal. Les annales du temps fourmillent de scandales. En plusieurs lieux, on aimait avoir un prêtre à entretenir une femme afin que les femmes mariées fussent en sûreté contre leur séduction. Que de scènes humiliantes présentaient alors la maison d'un pasteur. Le malheureux soutenait la mère et les enfants qu'elle lui avait donnés avec la dîme et les aumônes. Sa conscience était troublée, il rougissait devant le peuple, devant ses domestiques, devant Dieu. La mère, craignant, si le prêtre venait à mourir, de tomber dans le dénuement, se pourvoyait quelquefois d'avance, elle volait dans sa propre maison. Son honneur était perdu, ses enfants étaient pour elle une accusation toujours vivante. Méprisé de tous, il se jetait dans les querelles et dans les débauches. Voilà la maison du prêtre. Ces scènes affreuses étaient une instruction dont le peuple savait profiter. Les campagnes étaient le théâtre de nombreux excès. Les lieux où résidaient les ecclésiastiques étaient souvent des repères de dissolution. Corneille Adrien à Bruges, l'abbé Trinclair à Carpel imitaient les mœurs de l'Orient. Ils avaient aussi leur harem. Des prêtres s'associant à de méchantes gens fréquentaient les cabarets, jouaient aux dés et couronnaient leurs orgies par les querelles et le blasphème. Le conseil de Chafous leur défendit la danse publique, excepté en cas de noces, et le port de deux espèces d'armes. Il ordonna aussi qu'on dépouillât de leurs habits ce que l'on trouverait dans une maison de mauvaise mœurs. Dans l'archevêché de Mayence, ils sautaient durant la nuit par-dessus les murailles, ils faisaient du bruit et toutes sortes de désordres dans les auberges et dans les cabarets, et ils brisaient les portes et les serrures. En plusieurs lieux, le prêtre payait à l'évêque une certaine taxe pour la femme avec laquelle il vivait et par chaque enfant qu'il avait d'elle. Un évêque allemand se trouva un jour à un grand festin, dit publiquement que dans une année, 11 000 prêtres s'étaient présentés chez lui à cet effet. Érasme le rapporte. Si l'on montait dans l'ordre hiérarchique, la corruption n'était pas moins grande. Les dignitaires de l'Église préféraient le tumulte des camps au chant des autels. Savoir, la lance à la main, contraindre ceux qui les entouraient à l'obéissance était l'une des premières qualités des évêques. Baudouin, archevêque de Trèves, sans cesse en guerre avec ses voisins et ses vassaux, rasait leurs châteaux, bâtissait des forts et ne pensait qu'à agrandir son territoire. Certains évêques d'Eichstätt, lorsqu'ils rendaient la justice, portaient sous son habit une cotte de maille et tenaient en main une grande épée. Il avait coutume de dire qu'il défiait 5 Bavarois pourvu qu'ils l'attaquassent sans fraude. Partout, les évêques étaient en guerre continuelle avec leur ville. Les bourgeois demandaient la liberté, les évêques voulaient une obéissance absolue. Si ceux-ci remportaient la victoire, ils punissaient la révolte en immolant à leur vengeance de nombreuses victimes. Mais la flamme de l'insurrection brillait au moment même où l'on pensait l'avoir étouffée. Et quel spectacle offrait le trône pontifical aux temps qui précédèrent immédiatement la Réformation ? Rome, il faut le dire, ne vit pas souvent tant de honte. Rodrigue Borgia, après avoir vécu avec une dame romaine, avait continué le même commerce illégitime avec une fille de cette dame, Rosa Vanosa, et en avait eu 5 enfants. Il était à Rome cardinal, archevêque, vivant avec Vanosa, avec d'autres encore, fréquentant les églises et les hôpitaux, quand la mort d'Innocent VIII rendit vacant le siège pontifical. Il sut l'obtenir en achetant chaque cardinal à un certain prix. 4 mulets d'argent entrèrent publiquement dans le palais du plus influent de tous, du cardinal Sforza. Borgia fut fait pape sous le nom d'Alexandre VI et se réjouit d'être ainsi parvenu au fait des plaisirs. Le jour de son couronnement, il fit son fils César, jeune homme de mœurs féroces et dissolu, archevêque de Valence et évêque de Pampelune. Puis il célébra dans le Vatican les noces de sa fille, Lucrèce, par des fêtes auxquelles assista sa maîtresse, Julia Bella, et qu'égayèrent des comédies et des chansons déshonnêtes. Tous les ecclésiastiques, dit un historien, avaient des maîtresses et tous les couvents de la capitale étaient des maisons de mauvaise vie. César Borgia épousa le parti des Guelfes, et quand avec leur aide il eut anéanti les Ghibellins, il se tourna contre les Guelfes eux-mêmes et les engloutit à leur tour. Mais il voulait être seul à partager toutes ses dépouilles. L'an 1497, Alexandre donna à son fils aîné le duché de Bénévente. Le duc disparut. Un marchand de bois des bords du Tibre, Georges Schiavoni, avait vu, pendant la nuit, jeter un cadavre dans le fleuve. Mais il n'avait rien dit, c'était une chose ordinaire. On retrouva le cadavre du duc. Son frère César avait été l'auteur de sa mort. Ce n'était pas assez. Un beau-frère l'offusquait encore. Un jour, César le fit frapper sur l'escalier même du palais pontifical. On le transporta ensanglanté dans ses appartements. Sa femme et sa sœur ne le quittaient pas, et craignant le poison de César, elles lui préparaient de leurs propres mains ses aliments. Alexandre plaça des gardes à sa porte, mais César se moquait de ses précautions et comme le pape allait voir son gendre, « Ce qui ne se fait pas à dîner se fera à souper », lui dit César. Un jour, en effet, il pénétra dans la chambre du convalescent, en chassa sa femme et sa sœur, appela son bourreau, Michiluto, le seul homme auquel il témoigna quelque confiance, et fit étrangler son beau-frère sous ses yeux. Alexandre avait un favori, Perotto, dont la faveur importunait aussi le jeune duc. Il le poursuivit. Perotto se réfugia sous le manteau pontifical et enlaça le pape de ses bras. César le frappa et le sang de la victime rejaillit sur le visage du pontife. Le pape, ajoute le témoin contemporain de ces scènes, aime son fils le duc et en a grande peur. César fut l'homme le plus beau et le plus fort de son siècle. 6 taureaux sauvages tombaient facilement sous ses coups dans un combat. Chaque matin, on trouvait dans Rome des gens assassinés pendant la nuit. Le poison consumait ce que le glaive ne pouvait atteindre. Nul n'osait se mouvoir ni respirer dans Rome, tremblant que son tour ne vînt. César Borgia a été le héros du crime. Le lieu sur la terre où l'iniquité a atteint de telles hauteurs, c'est le trône des pontifes. Quand l'homme s'est livré aux puissances du mal, plus il prétend être élevé devant Dieu, plus il s'enfonce dans les abîmes de l'enfer. Les fêtes dissolues que le pape, son fils César et sa fille Lucrèce se donnaient dans le palais pontifical ne peuvent se décrire, et l'on ne peut y penser sans horreur. Les bocages impurs de l'Antiquité n'en virent peut-être pas de semblables. Des historiens ont accusé Alexandre et Lucrèce d'inceste, mais ce fait ne paraît pas suffisamment prouvé. Le pape ayant préparé des poisons à un riche cardinal dans une petite boîte de confiture qui devait être servie après un somptueux repas, le cardinal averti gagna le maître d'hôtel et la boîte empoisonnée ayant été placée devant Alexandre, il en mangea et mourut. La ville entière accourut et put se rassasier de contempler cette vipère morte. Tel était l'homme qui occupait le siège pontifical au commencement du siècle dans lequel la Réformation éclata. Ainsi, le clergé avait déconsidéré et la religion et lui-même. Aussi, une voix puissante pouvait-elle s'écrier « L'État ecclésiastique est opposé à Dieu et à sa gloire. Le peuple le sait bien, et c'est ce que ne montrent que trop tant de chansons, de proverbes et de moqueries contre les prêtres qui ont cours parmi les gens du commun et toutes ces peintures de moines et de prêtres que l'on voit sur toutes les murailles et jusque sur les cartes à jeu. Chacun éprouve du dégoût lorsqu'il aperçoit ou qu'il entend de loin un ecclésiastique. » C'est Luther qui parle ainsi. Le mal s'était répandu dans tous les rangs. Une efficace d'erreur avait été envoyée aux hommes. La corruption des mœurs répondait à la corruption de la foi. Un mystère d'iniquité pesait sur l'Église asservie de Jésus-Christ. Une autre conséquence découlait nécessairement de l'oubli dans lequel était tombée la doctrine fondamentale de l'Évangile. L'ignorance de l'esprit était la compagne de la corruption du cœur. Les prêtres, ayant pris en leurs mains la distribution d'un salut qui n'appartient qu'à Dieu, avaient un titre suffisant au respect des peuples. Qu'avait-il besoin d'étudier les saintes lettres ? Il ne s'agissait plus d'expliquer les Écritures, mais de donner des diplômes d'indulgence, et il n'était pas besoin pour ce ministère d'avoir acquis avec peine beaucoup de savoir. On choisissait pour prédicateurs dans les campagnes, dit Wimfiling, des misérables que l'on avait auparavant enlevés à la mendicité et qui avaient été cuisiniers, musiciens, chasseurs, garçons d'écurie, et pis encore. Le haut clergé lui-même était souvent plongé dans une grande ignorance. Un évêque de Dunfeld s'estimait heureux de n'avoir jamais appris ni le grec ni l'hébreu. Les moines prétendaient que toutes les hérésies provenaient de ces langues, et surtout du grec. « Le Nouveau Testament, disait l'un d'eux, est un livre rempli de serpents et d'épines. Le grec, continuait-il, est une nouvelle langue récemment inventée et dont il faut bien se garder. Quant à l'hébreu, mes chers frères, il est certain que tous ceux qui l'apprennent deviennent juifs à l'instant même. » Hirbach, ami d'Erasme, écrivain respectable, rapporte ces paroles. Thomas Linacer, savant et célèbre ecclésiastique, n'avait jamais lu le Nouveau Testament. Dans ses derniers jours, en 1524, il s'en fit apporter un exemplaire. Mais aussitôt, il le jeta loin de lui avec un jurement, parce qu'en l'ouvrant, il était tombé sur ces paroles. « Mais moi, je vous dis, ne jurez en aucune manière. » Or, il était grand jureur. « Ou bien ceci n'est pas l'Évangile, dit-il, ou bien nous ne sommes pas chrétiens. » La faculté de théologie de Paris, elle-même, ne craignait pas de dire alors devant le Parlement « Ça n'est fait de la religion si l'on permet l'étude du grec et de l'hébreu. » S'il y avait ça et là parmi les ecclésiastiques quelques connaissances, ce n'était pas dans les saintes lettres. Les cicéroniens d'Italie affectaient un grand mépris pour la Bible à cause de son style. De prétendus prêtres de l'Église de Jésus-Christ traduisaient les écrits des saints hommes inspirés par l'Esprit de Dieu en style de Virgile et d'Horace, afin de rendre leurs paroles agréables aux oreilles de la bonne société. Le cardinal Bimbus, au lieu du Saint-Esprit, écrivait « Le souffle du zéphyr céleste ». Au lieu de remettre les péchés, fléchir les mânes et les dieux souverains. Et au lieu de Christ, fils de Dieu, Minerve sortit du front de Jupiter. Ayant trouvé un jour le respectable Sadolé, occupé d'une traduction de l'Épître aux Romains, « Laisse-là ces enfantillages, lui dit-il, de telles inepties ne conviennent pas à un homme grave. » Voilà quelques-unes des conséquences du système qui pesait alors sur la chrétienté. Ce tableau rend évidente sans doute et la corruption de l'Église et la nécessité d'une réformation. C'est ce que nous nous sommes proposés en l'esquissant. Les doctrines vitales du christianisme avaient presque entièrement disparu et avec elles la vie et la lumière qui constituent l'essence de la religion de Dieu. Les forces du corps de l'Église s'étaient dissipées. Le corps était affaibli, épuisé et se trouvait étendu presque sans vie sur cette partie du monde que l'Empire romain avait occupée. Qui lui rendra la vie ? D'où le remède à tant de maux viendra-t-il ?